le magazine des Nations Unies.
Bonjour et surtout agréable condition d'écoute. C'est le programme de Radio Capi qui vous propose le magazine des Nations Unies dont voici les principaux titres. Ouverture du premier bureau de Power Africa dans la région de l'Afrique centrale, précisément en RDC. Un nouveau programme pour l'autonomisation de l'Afrique de l'Est et centrale en matière d'électricité. Cette initiative est dirigée par le gouvernement américain et coordonnée par l'USAID en République démocratique du Congo. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dit avoir documenté depuis le mois de janvier dernier 371 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national avec près de 950 victimes. Isaias Barreto da Rosa, représentant pays de l'UNESCO en RDC, l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames, Messieurs, une fois encore bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Cette page d'actualité commence à Kinshasa. Environ 40 personnes, parmi lesquelles les conseillers en protection des femmes victimes de violences sexuelles liées au conflit du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, des agences, fonds et programmes des Nations Unies et autres composantes civiles et militaires de la MONUSCO ont bénéficié d'une formation intégrée sur la prévention et la réponse aux violences sexuelles liées au conflit en RDC. La formation a débuté le mardi 19 à Kinshasa. C'est dans l'objectif de renforcer leurs capacités. La formation a été organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme avec l'équipe au conflit et relatif aux violences sexuelles du BCNUDH de New York. Parmi les intervenants, Cécile Chibanda, directrice nationale de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille, Avifem en sigle. Elle n'a pas caché sa satisfaction. Elle est au micro de Jeff Opela.
J'ai beaucoup aimé parce que j'ai dû présenter, faire un état de lieu de ce que nous faisons au ministère des gens. Dans l'état de lieu, il y a eu la prise en charge qui est axée sur les survivants, qui doit être de mise. Si nous voulons vraiment lutter, c'est la prise en charge. J'ai beaucoup aimé l'initiative parce qu'il nous est demandé à chaque fois de renforcer nos capacités. Et c'est ce que les organisateurs ont pensé. Et je ne peux qu'encourager de telles initiatives.
D'autant que cette formation a été suivie d'une retraite de l'unité conflit relatif aux violences sexuelles du BCNUDH du 22 au 23 mars 2024 à Kinshasa. Autre volet de l'actualité, dans la province de la Tchopo, des jeunes champions de l'UNICEF ont clôturé jeudi dernier leur prestation au sein de cette agence des Nations Unies. 3 mois après leur admission, les 4 volontaires ont eu à s'imprégner du travail de l'UNICEF lors de leur passage dans ces différentes sections. Ils l'ont fait savoir au cours d'une présentation au bureau de l'UNICEF en présence des employés de cette agence ainsi que des responsables de quelques agences tunisiennes présentes à Kisangani. Et quel est l'objectif poursuivi par l'UNICEF à travers ce programme? Comment les jeunes volontaires l'apprécient-ils et quelle est la réaction des participants? C'est un dossier signé Jacques Moukonkolé.
En mettant en œuvre ce programme innovant, l'UNICEF voudrait aider les jeunes à acquérir de l'expérience nécessaire qui leur permettrait d'exercer avec compétence leur métier dans la société. Mokhtar Khan, chef de bureau de l'UNICEF Kisangani.
L'idée pour nous, c'est de leur donner une première expérience. Parce que comme vous le savez, lorsque les jeunes se présentent dans les entreprises, dans les agences, la première des choses qu'on leur demande, c'est voilà l'expérience professionnelle. Très souvent, on se retrouve avec des jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui viennent de finir les études. Donc l'idée pour nous, c'est de leur donner une première expérience, c'est de servir aussi de relais avec les communautés pour toutes les activités que nous faisons, notamment la campagne polio qui va commencer bientôt. Donc les jeunes passent l'information aux communautés, aux mamans, aux leaders communautaires, sur les bénéfices de la vaccination pour les enfants.
Durant les 3 mois de leur prestation, les 4 volontaires de l'UNICEF ont appris le travail de cette agence onusienne en prestant dans ses différentes sections. Diogène Wando, l'un d'eux.
L'UNICEF nous a permis de nous lancer sur le plan du marché d'emploi afin de nous rendre aptes de travailler parce que plusieurs opportunités exigent beaucoup plus d'expérience. Mais ici, nous avons eu l'opportunité de travailler sans expérience et cela va nous permettre de booster notre CV et apporter aussi un plus dans nos communautés.
Quel a été le travail de ces jeunes gens et filles sur terrain? Odile Kiakimoa, Louise Alombe et James Kalala s'expriment tour à tour.
Dans toutes ces sections, nous avons acquis des expériences qui pourraient nous aider à saisir d'autres opportunités dans les nations, non seulement dans les nations. Nations Unies, mais aussi ailleurs.
Donc nous étions partis à Lubunga, là où il y a les conflits intercommunautaires. Donc il y avait les enfants qui ne partent plus à l'école, manque de moyens. Alors on s'est mobilisé avec la communauté Europort d'apporter à ces enfants quelques kits leur permettant de retourner à l'école. Et on avait aidé à peu près 230 enfants âgés de 7 à 13 ans.
Sur le terrain, nous avions eu à mener d'autres activités en faveur de notre communauté.
Les participants trouvent intéressant ce programme de l'UNICEF parce que selon eux, il est bénéfique pour les jeunes. Benjamin Lévy Tshizoubou, conseiller à l'ONU SIDA.
Je félicite l'UNICEF pour avoir mis sur pied ce programme innovant. Je pense que ça va permettre à ces champions de renforcer les capacités de leurs collègues, soit dans la recherche de l'emploi ou encore eux-mêmes à créer de l'emploi pour ne pas être chômeurs.
À la fin de leur présentation, les volontaires ont émis le souhait de voir les autres agences de l'ONU emboîter les pas à l'UNICEF en implémentant aussi ce genre de programme dans leurs organisations respectives. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Lancement jeudi 21 mars dernier à Kinshasa d'un nouveau programme de Power Africa pour l'autonomisation de l'Afrique de l'Est et centrale, une initiative dirigée par le gouvernement américain et coordonnée par l'USAID en République démocratique du Congo. Ceci a été marqué par l'ouverture du premier bureau de Power Africa dans la région de l'Afrique centrale, précisément en RDC. Ce programme vise à accroître l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne en ajoutant 30 000 mégawatts de nouvelles capacités de production et 60 millions de nouveaux raccordements électriques d'ici à 2030. Jeff Opela pour d'autres précisions.
La coupure du ruban de ces nouveaux bureaux de l'Afrique centrale a été faite par Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. Cela a été précédé par une conférence des princes qui a commencé autour des 14 heures suivie d'un jeu des questions-réponses qui a caractérisé cette conférence. Au cours de son adresse, Lisa White, coordonnatrice adjointe intérimaire du Power Africa, a expliqué que grâce à ce programme, Power Africa fournira durant les 5 prochaines années une assistance technique aux parties prenantes du secteur. Cette assistance permettra de développer des solutions énergétiques en réseau et hors réseau, aussi d'attirer davantage d'investissements dans le secteur de l'énergie. En améliorant les infrastructures et en augmentant la capacité énergétique, Power Africa espère fournir une électricité fiable, abordable et propre aux foyers, aux entreprises, aux services communautaires essentiels. Mais son souci majeur est de soutenir une croissance économique inclusive grâce à un développement énergétique durable en accord avec les objectifs du gouvernement de la RDC dans les secteurs de l'énergie.
Comme annoncé dans le titre, dans le cadre de son mandat, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BESTENUIDH en RDC, a dit avoir documenté depuis le mois de janvier dernier 371 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national, avec 949 victimes, ce qui représente une diminution de 4% par rapport au mois précédent, d'après le communiqué publié à cet effet. Autre détail avec Gisèle Cage.
Pendant le mois de janvier 2024, le BCNUDH a documenté 29 violations et atteintes des droits de l'homme liées à l'espace démocratique ayant fait 60 victimes, dont 2 femmes, ce qui constitue une diminution par rapport à celle documentée au cours du mois de décembre 2023, 49 violations et 225 victimes. Les agents de l'État ont commis 26 violations alors que les membres des groupes armés ont été responsables de 3 atteintes dans les provinces en conflit, notamment dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika, du Sud Kivu et du Maniema. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dit avoir documenté 305 violations et atteintes toujours en janvier 2024. Dans les provinces non affectées par les conflits, le BCNUDH a documenté 59 violations commises par les agents de l'État. Dans les petits nord de la province du Nord Kivu, la situation en matière de sécurité et des droits de l'homme s'est considérablement détériorée dans les territoires de Rutshuru et de Masisi en raison de l'intensification des combats entre le M23 soutenu par les forces armées rwandaises et des militaires de FARDC ainsi que des groupes armés regroupés au sein du Wazalendo qui se battent aux côtés des FARDC poursuit ses rapports.
Clôturons cette page d'actualité avec avec l'adresse du secrétaire général de l'ONU, les attaques visant les casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international. C'est en ce terme que le secrétaire général des Nations Unies a condamné l'incident de samedi de la semaine dernière et a blessé 8 casques bleus de la MONUSCO à Sake, cité située à 27 km au sud-ouest de la ville de Goma. C'était lors des affrontements entre les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise et les FARDC. Les détails avec Jacques Moulima.
Antonio Guterres condamne cette attaque qui a fait des blessés dans les rangs des casques bleus. Des casques bleus qui, d'après les communiqués du secrétaire général de l'ONU, étaient déployés dans le cadre de l'opération Springbok, lancée en novembre dernier pour protéger les civils dans la région. De ce fait, le secrétaire général réitère son appel à tous les groupes armés congolais et étrangers de déposer les armes immédiatement et d'entreprendre sans délai les processus de désarmement. Il demande également au M23 de se retirer complètement de toutes les zones occupées et de respecter les décisions énoncées dans le communiqué de Luanda daté du 23 novembre 2022. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être pleinement respectées. Par ailleurs, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux casques bleus blessés lors de l'attaque, le secrétaire général réaffirme la détermination de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat de protection des civils. Rappelons que toujours hier dans la soirée, dans un communiqué rendu public, la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, avait fait savoir que la MONUSCO est disposée à soutenir toute enquête destinée à déterminer les responsabilités devant les juridictions nationales ou internationales.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien Clovis Munihire, coordonnateur provincial du programme PDDR-CS au Nord Kivu. Il parle d'une centaine d'ex-combattants qui sont en phase de réinsertion communautaire depuis fin 2023 dans les territoires de Beni et Lubero. Et mardi 19 mars 2024, une nouvelle vague de 70 ex-combattants a été évacuée de Goma par un vol de la MONUSCO afin d'intégrer ce processus à Beni. Deux projets financés par le Fonds de cohérence pour la stabilisation sont déjà en cours pour accompagner cette réinsertion qui devrait impliquer plus de 1500 ex-combattants. Comment cela se déroule-t-il? Clovis Munihire en parle dans cet entretien avec Bernard Danyangi.
Monsieur Clovis Munihire, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous êtes venu y coordonner une opération d'évacuer de Goma vers Beni à 70 ex-combattants, parmi lesquels il y a bien sûr quelques dépendants de ces ex-combattants. C'est par rapport à quel programme exactement?
Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser notre rêve. Vous vous souvenez que ces ex-combattants avaient fait 5 ans dans le site de Mbambiro. C'était depuis 2018 qu'ils étaient là. Il y a de cela une année et qu'on a fermé le site compte tenu de la situation de sécurité que tout le monde connaît. C'était sur décision de la haute hiérarchie, donc le gouvernement provincial, la coordination nationale du PDDRC et les autorités au niveau de Kinshasa. Mubambiro et la ville étaient sous menace du M23 et nous avions décidé de fermer le site et ramener ces ex-combattants dans leur milieu d'origine. Malheureusement, au moment où on a fermé le site, la route Goma-Rutshuru était déjà fermée, la route Goma-Masisi était déjà fermée et le seul issue c'était de les mettre dans le site de déplacés parce que leur communauté était déjà dans le site de déplacés environnant de la ville de Goma. Ils ont choisi de rejoindre le leur dans les sites de déplacés. Et d'ailleurs, je félicite d'abord la coordination provinciale, mes collègues, qui ont eu à travailler pour qu'il n'y ait pas de bavures. Et effectivement, ces ex-combattants, ils étaient au nombre de 1500 ex-combattants. On n'a jamais enregistré quelconque problème ou bien des plaintes de la part des services de sécurité en disant que non, les ex-combattants ont fait ça, ça, ça. Non, parce que surtout qu'ils détiennent des cartes, nos cartes démobilisées. Et aujourd'hui, parmi ces gens-là, il y a presque 200 ex-combattants, 201, qui avaient identifié comme leur zone de retour Beni et Lubero. Alors, on a eu à négocier avec les fonds de cohérence, MONUSCO, comme il y avait déjà un projet en cours dans la zone, parce que moi j'avais priorisé les ex-combattants de Mbambiro, et leur zone de retour, une grande partie, c'était dans les Masisi et Walikale. J'ai eu à négocier avec les partenaires pour délocaliser le projet. Surtout que Masisi, il y a encore un souci sécuritaire. Parmi ces gens-là, une grande partie sera prise en charge par le projet OIM, qui était au départ destiné à réintégrer, réinsérer les ex-combattants qui avaient choisi les zones de retour Masisi et Walikale et Rutshuru, une partie de Rutshuru. Et ceux qui vont partir à Lubero, ils seront pris en charge automatiquement par le projet Mudamani piloté par ex-EPR. Donc, moi, je suis très heureux parce que démobiliser, sensibiliser les combattants et les démobiliser, oui, ça, c'est une phase très importante. Mais ce qui est compliqué, difficile, c'est leur réinsertion.
Donc, c'est combien, en fait, au total, qui devraient être concernés par ce processus de réinsertion communautaire?
Non, non, c'est tous. Sauf que ce n'est pas tout ce monde-là qui était venu de Beni Lubero. Ici, nous parlons des ex-combattants qui ont comme origine Beni Lubero. Donc, on les ramène dans leur communauté d'origine. Surtout que là, on a y impliqué les communautés dans le processus. Mais ce projet-là, ex-EPR, Mudamani et le projet OIM ne concernent pas uniquement les ex-combattants. Ça concerne aussi les communautés. Il y a les jeunes à risque, les filles à risque qu'on va impliquer, qu'on va incorporer dans les projets. Donc, il y aura un quota pour les communautés, un quota pour les ex-combattants.
Donc, là, ce qui est prévu, est-ce qu'il y aura des projets de type qui peut leur apporter un moyen suffisant pour leur insertion?
Effectivement, ce sont des projets socio-économiques. Nous voulons voir et accompagner ces amis ici pour qu'ils soient réinsérés et que leur situation économique s'améliore. Nous devons les accompagner pour qu'ils ne reviennent plus en arrière et reprendre, se faire recruter. Et je dois vous dire la vérité, ces amis ici, ils n'ont plus besoin de prendre les armes. S'ils avaient cette envie-là, ils allaient être aussi avec les Ouazalendo. Donc là, ils rentrent chez eux, ils seront accompagnés même pendant une année, deux ans. C'est vrai, le projet qui est déjà en cours d'ailleurs prendra peut-être 3, 5 à 6 mois. Mais nous sommes en train de faire un plaidoyer qui est maintenant un projet à long terme. Donc que ça soit vraiment une véritable intégration. Depuis qu'on a commencé, on a mis en place ce programme PDDRSS, dynamique est venue de plusieurs acteurs, notamment la MONUSCO. Surtout la section DDR, c'est parmi nos partenaires privilégiés. Et je crois qu'avec ce mariage, on va faire de grandes choses. Le défi est encore là, nous avons un défi énorme, mais nous devons le relever. Dit-on, l'union fait la force.
Monsieur Clovis, on y remercie.
Je vous remercie aussi.
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme de 30 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement en CIPD et des 29 ans de la Déclaration de Beijing, un forum national des femmes leaders sera organisé à Kinshasa du 26 au 28 mars 2024. C'est pour échanger sur les progrès, les défis, les perspectives en vue d'accélérer la réduction des décès maternels et néonatales évitables, ainsi que faire la promotion de l'autonomisation des femmes et l'égalité de genre. C'est ce que dit le communiqué rendu public jeudi dernier par l'UNFPA.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit comme invité Isaias Barreto da Rosa, représentant pays de l'UNESCO en RDC. L'UNESCO s'engage à appuyer les écoles du Haut-Katanga dans la lutte contre les maladies d'origine hydrique. Ainsi, pour prévenir le choléra, des kits de lavage des mains sont notamment remis aux établissements scolaires. Pour en parler, Isaias Barreto da Rosa s'entretient avec Jean Gando.
Isaias Barreto, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi l'UNESCO appuie cette école en kit de lavage de mains?
L'UNESCO n'appuie pas seulement cette école, mais c'est environ 100 écoles de la province du Haut-Katanga qui vont recevoir des kits de lavage de mains dans le cadre de notre accompagnement aux efforts de la province, du PROVED, du ministère provincial de l'éducation dans la lutte contre les maladies hydriques, notamment contre l'épidémie de choléra dans la province. Et cette cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie symbolique de remise de ces kits, mais nous avons presque 500 kits qui seront remis aux différentes écoles de la province. Mais notre accompagnement aux efforts du gouvernement provincial ne se limite pas seulement à la distribution de ces kits. Nous avons trois composants. Bien sûr, la distribution de kits. Il y a aussi la formation et la sensibilisation des enseignants et des chefs d'établissement en ce qui concerne la lutte contre l'épidémie de choléra. Quand les enseignants et les chefs d'établissement sont bien préparés, ils peuvent davantage aider les élèves. Et il y a aussi une campagne de sensibilisation via radio pour arriver au niveau des communautés, des maisons, des foyers pour aider dans la lutte contre l'épidémie de choléra au niveau de la province.
Dans la province du Haut-Katanga, le choléra n'est pas seulement à Lubumbashi, il a été déclaré à Kasumbalesa, à Likasi et dans d'autres entités. Est-ce que l'UNESCO peut aller aussi dans d'autres territoires en dehors de ceux qui sont à côté de Lubumbashi?
Nous sommes prêts à amener notre contribution à cet effort du gouvernement provincial. Bien sûr, nous sommes prêts à accompagner ces efforts, non seulement ici, mais aussi ailleurs. Ça fait presque 60 ans que nous sommes ici en RDC et nos actions ne se limitent pas au centre-ville. Nos actions vont au-delà, y compris bien sûr dans les villages et dans les écoles les plus éloignées. Et donc nous sommes prêts à amener notre contribution là où cette contribution pourra être utile.
Dans l'entretemps, vous serez dans ces différentes écoles. Quand exactement? Y a-t-il un calendrier?
On ne sera pas dans tous les 100 écoles, mais il y a les structures du ministère provincial qui certainement amèneront les kits à ces différentes écoles.
Et les formations se tiendront de quelle manière?
Il s'agit d'une formation des enseignants, des chefs d'établissement, qui sera organisée toujours en partenariat avec le ministère provincial. Et nous allons travailler avec le ministère dans les détails de ce genre de formation. On ne fait pas les choses tout seul, c'est toujours en partenariat avec le gouvernement central, dans ce cas avec le gouvernement provincial. Et donc c'est comme ça que nous allons travailler.
Le choléra n'est pas la seule maladie qui soit d'origine hydrique. Comment comptez-vous également soutenir les écoles pour combattre les éventuelles maladies qui viendraient de cette source-là?
Le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est pas seulement pour lutter contre le choléra. Ces kits et ces formations et la campagne de sensibilisation, c'est pour lutter contre les maladies hydriques. Et donc, c'est-à-dire le choléra et d'autres maladies hydriques. On est toujours prêt à accompagner les efforts du gouvernement là où nous pouvons être utiles. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied et en partenariat avec le gouvernement provincial. Là où il y a un besoin, nous sommes bien sûr prêts à étudier, à analyser la possibilité d'accompagner. Mais, encore une fois, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement contre le choléra, mais c'est contre les maladies hydriques.
Ben, nous savons également que le seul lavage de mains ne suffit pas pour éradiquer une épidémie. Il y a également les questions liées à l'environnement dans lequel évoluent ces écoles. Est-ce que cet aspect des choses a été aussi épinglé chez vous?
C'est un départ aujourd'hui. L'une des méthodes les plus efficaces et les plus simples de lutter contre les maladies hydriques comme le choléra, c'est exactement le lavage des mains. C'est la sensibilisation, la formation des enseignants, la sensibilisation de la population, et c'est là où nous sommes en train de travailler. Mais aujourd'hui, c'est un point de départ, il faut commencer avec des activités qui peuvent amener des résultats concrets et des activités qui peuvent atteindre un bon nombre donc, de bénéficiaires. Et c'est ça ce qu'on vient de faire aujourd'hui, encore une fois, en partenariat avec le PROVED. Et nous tenons vraiment à féliciter donc, la province, le PROVED, pour ce partenariat avec l'UNESCO qui nous permettra vraiment d'amener une contribution importante dans les efforts du gouvernement provincial dans la lutte contre les maladies hydriques au niveau de la province.
Isaias Barreto, je vous remercie.
Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.
Un an qui vaut l'apport des femmes dans la recherche de la paix et leur appui au développement durable dans la région de Béni. Ce thème était au centre d'une conférence qu'a organisée la semaine dernière l'Association des femmes des médias pour la paix et le développement de Béni en marge de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars. L'objectif était d'inciter les femmes à faire plus et mieux pour participer au retour d'une paix durable sans laquelle leur émergence économique est presque impossible. Une centaine de participants, dont 70 femmes, ont pris part à cette activité, appuyée par la section de communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO Béni. Guylaine Kassassia pour d'autres détails.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Agenda. Question aux Nations Unies n'a pas.
Les femmes congolaises en général et celles de Béni de manière particulière doivent réellement jouer le rôle pour les retours d'une paix durable, a exhorté Nason Mourara, porte-parole de la police congolaise à Béni, présent à cette activité. Selon lui, les femmes sont mieux placées du fait qu'elles sont au carrefour même de la communauté. Nason Mourara a salué la collaboration de femmes avec la police à travers les alertes sécuritaires qu'elles donnent régulièrement. De son côté, Janelle Nenoyomo, pour président présidente de l'Association de femmes de médias pour la paix, FMPD de Béni, c'est par le foyer que devrait commencer le processus qui conduit à l'émergence économique de femmes.
La femme doit d'abord prendre conscience qu'il n'y a pas tellement de paix dans la région de Béni. Elle doit s'asseoir, réfléchir un peu avec sa famille, comment est-ce que je peux faire pour que la paix puisse revenir dans la région de Béni.
C'est ce que confirme Espérance Kavira Kisando, première vice-présidente de la MACO, Association de femmes commerçantes au Congo, section de Béni.
Comme maman commerçante, nous encadrons sérieusement nos enfants dans leurs études et nous faisons tout afin qu'ils ne puissent pas aller dans des groupes armés, dans des KIG. Nous avons des séminaires de mamans. Nous leur formons pour trouver comment encadrer leurs enfants à travers les différentes activités. Par exemple, pendant les vacances, lorsque nous sommes au boulot, les enfants nous aident. Chacun avec son enfant dans l'activité qu'elle fait. Pour que l'enfant ne puisse pas se retrouver dans les groupes civiques.
À part les alertes sécuritaires, les femmes disent participer aussi au retour de la paix et au développement à travers de petites activités génératrices des revenus, seul moyen pour les empêcher de se tourner vers les groupes armés. Homo Idike Modivine, couturière esthéticienne.
J'encadre 4 filles. Qu'elles soient dépendantes d'elles-mêmes. Les filles qui ne travaillent pas, elles sont victimes à tout genre d'actions négatives. Imagine-toi une fille sans préoccupation et que tu trouves par exemple Nadef, ne sera que attirée par ton argent. Ça sera pour la ville en entière un désarroi.
Tout en appelant les femmes à une implication totale pour les retours total de la paix à Béni, facteur par excellence pour leur émergence économique, Julie Kasso Kisiwako de l'ONG Action Paysanne pour le développement intégré au Congo à Pédi Congo recommande à la police et aux forces de défense la promptitude dans les réponses aux alertes reçues pour encourager les efforts de femmes dans la recherche de voies et moyens pour une paix durable dans la région. Béni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Et dans vos agendas, ces 3 dates à retenir pour la semaine qui commence. Le 24 mars, c'est la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Le 25 mars, journée internationale de commémoration de l'esclavage. Et enfin, la journée internationale du zéro déchet intervient le 30 mars. C'est la fin de cette émission à retrouver sur www.radiocapi.net. Merci de votre attention. Merci également à Alain Goy qui en a assuré la coordination technique. Babel Pongo Massimango au micro. Jeff Opela à la production, coordination et réalisation. Merci de rester à l'écoute de la fréquence de la paix. L'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain.